Voici le journal, une présentation de Marie-Chantal Noah.
Mesdames, messieurs, bonsoir. Jeux olympiques 2024, demain le grand jour. Cérémonie officielle d'ouverture ce vendredi à Paris en France. Le président de la République, Paul Biya, et son épouse Chantal Biya seront à la loge d'honneur. Absentéisme dans l'administration publique. Le premier ministre, chef du gouvernement, rappelle l'obligation de présence au poste de travail et prescrit des mesures pour sanctionner les récalcitrants. Joseph John Gouthier a présidé ce jour le conseil de cabinet du mois de juillet. Communiqué final dans ce journal. Remember Cindy Minja, humoriste comédien décédé il y a 19 ans. En ce triste anniversaire, le dossier du 20h revisite l'œuvre et l'héritage du défunt tout en questionnant la qualité et l'avenir de l'art humoristique au Cameroun. Dans le fauteuil de l'invité du soir, Athanase Mvondo, dit et deux doigts non glacés. Bienvenue au journal. Jeux olympiques 2024, coup d'envoi demain vendredi aux Invalides autour de la Seine à Paris. Le président de la République, Paul Biya, et son épouse prendront part à cette cérémonie d'ouverture aux côtés de plusieurs dirigeants du monde. À noter que ce jeudi déjà s'est tenu au musée du Louvre un forum sur le sport et le développement durable, ainsi qu'une réception offerte par Madame Brigitte Macron, l'épouse du président français, aux conjointes et des chefs d'État invité à ces Jeux olympiques. Yves-Marc Mojo, envoyé spécial de la CRTV à Paris.
Du beau monde, ce jeudi 25 juillet 2024 au musée du Louvre à Paris, ils sont conviés, en plus des dirigeants, des figures du mouvement sportif, des acteurs, des mouvements associatifs et des manières de la finance. Il s'agit pour les organisateurs de rassembler les partenaires multilatéraux autour de l'agenda partagé des objectifs de développement durable, ODD, des Nations Unies. Dans cette perspective, les participants seront invités à soutenir l'accord de Paris pour le sport et le développement durable. Pour l'Élysée, il s'agit de mettre en avant l'importance du sport comme vecteur de progrès. Sur le plan pratique, ce forum se décline en différents modules, dont entre autres, sport, égalité, inclusion, sport, éducation et emploi, sport, santé et nutrition, sport, financement et mesures d'impact. De ces différentes réflexions, il est attendu la libération du potentiel du sport pour une plus grande mobilisation financière, la promotion d'une activité physique et sportive accessible à tous et à toutes, et des investissements plus accrus au profit de la pratique sportive et la formation des cadres d'éducation physique. L'éducation physique et sportive étant reconnue comme un droit fondamental par l'UNESCO. En ceci qu'elle contribue à l'éducation à l'école, facilite l'acquisition des compétences, constitue en somme un moteur de croissance et d'insertion sociale. Pour le Cameroun et le président de la République, Paul Biya, l'engagement au profit de ces différentes causes ne date pas d'aujourd'hui. Et la politique gouvernementale de notre pays en matière de sport repose sur un certain nombre de piliers qui vont de la pratique sportive à tous les niveaux au développement des infrastructures sportives, en passant par la mise en place de programmes de détection des talents et une participation assidue aux compétitions sportives, aussi bien nationales qu'internationales. La mise en place du Comité national olympique et sportif du Cameroun en 1963, du ministère des Sports et de l'Éducation physique depuis 2005 et de l'Office national des infrastructures et équipements sportifs en août 2012 participe de cette volonté des pouvoirs publics camerounais à s'arrimer à cette donne internationale. La présence du président de la République, Paul Biya, à ces Jeux olympiques et paralympiques Paris 2024 est par conséquent une indication de la place qu'occupe le mouvement sportif dans notre pays pour la promotion de l'unité et de la cohésion nationale et l'épanouissement des athlètes, ainsi que son rôle déterminant dans l'avènement d'un monde plus pacifique. C'est également la preuve de l'excellente relation du Cameroun entre d'une part la France, pays hôte, et d'autre part le Comité international olympique. Paris, Vincent Bolland, Yves-Marc Mejo.
Le sommet sur le sport et le développement durable de ce jeudi au carrousel du Louvre à Paris était marqué par l'engagement des gouvernements à œuvrer davantage pour le financement du sport en Afrique avec le concours des plus grands groupes économiques et de la Banque mondiale. Écoutons le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui s'est exprimé par visioconférence. Propos sélectionné par Samuel Billon.
À la veille des Jeux Olympiques de Paris, nous célébrons le sport comme vecteur de changement et de développement durable. Le sport possède un pouvoir de transformation unique. Il forge l'esprit d'équipe et la persévérance. Il contribue à la santé et au bien-être physique et mental. Il réduit les inégalités et favorise l'inclusion de toutes et de tous. Le sport transcende les frontières, unit les peuples et nous inspire à agir pour un monde meilleur. Le monde du sport doit également montrer l'exemple, en plaçant les objectifs de développement durable au cœur de ses activités. En investissant dans des programmes d'éducation et d'inclusion économique et sociale, notamment dans les pays en développement, et en promouvant l'égalité des genres, l'efficacité énergétique et le respect de notre planète. Ensemble, faisons équipe pour un monde plus juste, plus simple et plus durable.
Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies. Le président du comité d'organisation des Jeux Olympiques Paris 2024, pour sa part, pousse un ouf de soulagement à la veille de la cérémonie d'ouverture. Tony Estanguet parle déjà de l'héritage des Jeux Olympiques pour l'avenir. Propos recueillis par Samuel Billon.
Les Jeux, c'est du sport, mais finalement, c'est bien plus que du sport. On a voulu essayer de créer la plus grande dynamique collective possible, pour essayer de dépasser les différences et essayer d'utiliser les Jeux comme un formidable accélérateur pour trouver des solutions à la fois innovantes et rapides. Les Jeux ne peuvent pas tout, ça c'est sûr, mais les Jeux peuvent quand même inspirer, fédérer et engager largement. On a voulu organiser des Jeux spectaculaires, ouverts, inclusifs et plus responsables. D'ores et déjà, sur les 7 dernières années, on a prouvé qu'il était possible d'agir à tous les niveaux, sur la construction, sur l'énergie, sur l'alimentation, sur les transports, pour que les Jeux puissent être au service du changement climatique. Et ça, l'objectif, c'est que la génération 2024 soit en meilleure santé que la génération précédente. Un autre exemple, dernier exemple d'héritage, c'est aussi comment rendre la Seine baignable. Ça fait 100 ans que c'est un objectif. Et là aussi, grâce à la maire de Paris et grâce à la ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques et tous les acteurs engagés, on a montré qu'à force de patience, d'efforts et de collectifs, on pouvait faire bouger les lignes. Donner le bâton, le relais, à la fois à Dakar 2026, puis à Los Angeles 2028, on a envie aussi de les voir.
À propos de ce forum, les participants s'engagent à soutenir le financement du sport et du développement durable. Pour l'heure, la France attend impatiemment vibrer au rythme des Jeux Olympiques dès demain. Allons prendre le pouls dans la capitale française, c'est avec Samuel Billon à Paris.
206 pays membres du Comité international olympique, autant de drapeaux qui flottent au vent dans le ciel de Paris. Ici, le village olympique des Jeux, ou la belle cité qui accueille 10 500 athlètes et leurs encadreurs techniques. Dans les rangs, Emmanuel Essémé, le roi du 100 mètres, y a retrouvé le reste de la délégation. La ville de Paris et ses belles avenues présentent un visage rayonnant de bonheur dans l'attente de la cérémonie d'ouverture des Jeux ce vendredi au bord de la Seine. Avec en moyenne 300 000 personnes attendues, ultime réajustement du magnifique spectacle qui sera projeté sur la planète ce vendredi. C'est aussi la course contre la montre au Centre international de production. Près de 25 000 journalistes sont accrédités et chacun est à la recherche de son badge, outil indispensable pour la couverture des compétitions et divers événements des Jeux. Paris ce jeudi, c'est aussi le premier sommet sur le sport et le développement durable au carrousel du Louvre avec les 10 engagements de l'accord de Paris. Paris retient son souffle dans l'attente de la cérémonie de lancement officiel des JO ce vendredi. La Cameroun Olympic Team entre en jeu samedi avec Sarah Hanfounana au tennis de table en simple dame.
« 20h passées de 12 minutes, retour au Cameroun où le Premier ministre chef du gouvernement Joseph John Nguté a présidé ce jeudi 25 juillet 2024 dès 10h à l'auditorium de ses services, le conseil de cabinet du mois de juillet 2024. Les ministres d'État, les ministres délégués et les secrétaires d'État y prenaient part. L'ordre du jour de cette rencontre stratégique était articulé autour de quatre axes. Premièrement, l'exposé du ministre de la fonction publique et de la réforme administrative sur l'obligation de présence des personnels de l'État à leur poste de travail, cadre général et implication dans le sens de l'effectivité du service public sur l'ensemble du territoire national. Deuxièmement, la présentation du ministre de l'administration territoriale sur le rôle des autorités administratives dans la lutte contre le phénomène d'absence irrégulière des personnels de l'État et les propositions correctives. Troisièmement, la communication du ministre des Relations extérieures sur les exigences relatives à la délivrance des visas de courtoisie pour des visites au Cameroun et, quatrièmement, enfin, les divers. Au terme du propos introductif du chef du gouvernement, le ministre chargé de la fonction publique a précisé que l'obligation de présence à laquelle sont astreints les fonctionnaires et les contractuels de l'administration publique se fonde sur un rapport de subordination professionnelle vis-à-vis de leur employeur qu'est l'État. Par la suite, il a rappelé le cadre général de cette obligation de présence au poste de travail. Ainsi, au terme de l'exploitation cumulative des articles 27, 29, alinéa 2, 36 et 105 du décret du 7 octobre 1994 portant statut général de la fonction publique, modifié et complété par le décret du 12 octobre 2000, tout agent de l'État est appelé à servir et à se consacrer personnellement au service, étant entendu que la rémunération allouée est la contrepartie de sa prestation professionnelle. Dans ce sillage, l'absence irrégulière au poste constitue une faute susceptible de sanction. Il appartient aux responsables de la chaîne administrative d'assurer le respect de l'obligation de présence des personnels de l'État à leur poste de travail et corrélativement d'initier la procédure du constat de l'absence irrégulière, laquelle compromet significativement le processus de maillage administratif du territoire national, ainsi que la production d'un service public de qualité répondant aux attentes et aux besoins des usagers. Afin de juguler le phénomène d'absentéisme dans l'administration publique, le ministre de la fonction publique a préconisé le contrôle méticuleux des effectifs et la fermeté des supérieurs hiérarchiques qui devraient être suivis, le cas échéant, d'une action conséquente devant le Conseil permanent de discipline de la fonction publique. Dans cette veine, il a indiqué que la clôture de la phase d'apurement des instances disciplinaires enregistrées dans le cadre de l'opération de comptage physique des personnels de l'État devrait se matérialiser par la radiation d'environ 6 000 agents publics dont les dossiers de licenciement ou de révocation sont en phase finale de traitement. Par ailleurs, des recommandations ont été formulées dans l'optique de promouvoir l'orthodoxie disciplinaire dans l'administration publique. La parole a ensuite été donnée au ministre de l'administration territoriale qui a d'emblée relevé qu'au terme des dispositions du décret du 12 novembre 2008 fixant les attributions des chefs des circonscriptions administratives et portant organisation et fonctionnement de leurs services, le gouverneur, le préfet et le sous-préfet sont investis des pouvoirs de coordination et de contrôle du bon fonctionnement des services publics établis dans leurs unités de commandement, à l'exception de ceux relevant de la justice, de la défense et de la sûreté nationale. À cet égard, il appartient à l'autorité administrative de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement des services déconcentrés de l'État. Cette prérogative est assortie du pouvoir de sanction à l'encontre de certains personnels conformément à la réglementation en vigueur. Des actions concrètes sont ainsi menées au plan opérationnel dans le but, selon les cas, de sensibiliser les personnels, de constater les absences irrégulières et d'initier des procédures procédures répressives. Après avoir relevé les difficultés auxquelles sont confrontés les chefs de circonscription administrative dans l'exercice des missions y afférentes, le ministre de l'Administration territoriale a présenté des mesures susceptibles d'être mises en œuvre à court et moyen terme. Elles s'articulent notamment autour du renforcement des contrôles et des éléments de motivation pour les personnels. En même temps, des opérations de réarmement civique des différents acteurs ont été préconisées. Intervenant à son tour, le ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures, chargé des relations avec le Commonwealth, a dans un premier temps rappelé que depuis le 30 avril 2023, la procédure de délivrance des visas d'entrée au Cameroun s'effectue en ligne à la suite de la soumission par le requérant d'un dossier à l'adresse numérique www.ivisacam.cm. Ainsi, trois types de visas sont accordés à titre gratuit, à savoir le visa diplomatique ainsi que le visa de service, lesquels sont octroyés aux diplomates, de même qu'au personnel des missions diplomatiques et organisations internationales accréditées au Cameroun, et enfin le visa de courtoisie. S'appesantissant ensuite sur les visas de courtoisie, il a précisé que ceux-ci sont délivrés à titre gracieux par les services consulaires. Ils attestent que les détenteurs d'un passeport officiel ou les autres personnes éligibles sont autorisés à entrer sur le territoire national pour une durée déterminée, pour un motif précis. Cette catégorie de visa est également délivrée aux ressortissants des pays avec lesquels le Cameroun a conclu un accord de gratuité de visa, ainsi qu'aux invités spéciaux de l'État. Il a enfin établi que la délivrance des visas de courtoisie répond à des exigences liées à la qualité du bénéficiaire et au respect des procédures définies par les textes législatifs et réglementaires, encadrant les conditions d'entrée, de séjour et de sortie des étrangers au Cameroun. Ainsi, en est-il notamment de la soumission d'un dossier conforme. À l'issue des échanges qui ont suivi ces présentations, le chef du gouvernement a demandé au ministre de la fonction publique et de la réforme administrative de préparer un projet de texte réglementaire en vue de rappeler le contenu de l'obligation de présence au poste de travail ainsi que les sanctions qu'encourent les contrevenants, tout en reprécisant la procédure applicable en matière de constat de l'absence irrégulière. Il a prescrit au ministre de l'Administration territoriale de veiller à l'élaboration par les chefs de circonscription administrative d'une cartographie de la répartition des fonctionnaires et agents de l'État affectés dans leurs unités administratives respectives. S'agissant du régime de la délivrance et des visas de courtoisie, les membres du gouvernement ont été appelés à s'approprier les enjeux que cette procédure spécifique comporte et à travailler en étroite collaboration avec le ministre des Relations extérieures à l'occasion de la négociation des accords contenant des dispositions relatives à la délivrance des visas à titre gracieux. Dans le cadre des divers, des questions en lien avec les résultats aux examens officiels ont été évoquées. Le conseil s'est achevé à 12h20. Communiqué signé du secrétaire général des services du Premier ministre, Séraphin Magloire Fouda. Invité à prendre part à la 8e édition du Salon international de l'artisanat du Cameroun, SIARC 2024, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises de l'artisanat et du secteur informel de la République du Congo était reçu par le Premier ministre chef du gouvernement. Madame Jacqueline Lydia Mikolo était porteuse d'un carton d'invitation à la Foire internationale de l'artisanat du Congo et au Conseil des ministres africains de l'artisanat prévu à Brazzaville au mois d'août prochain. Écoutons l'hôte du Premier ministre chef du gouvernement. C'est dans cet extrait sélectionné par Laurentine Bokono.
Nous sommes heureux d'être ici à Yaoundé. Nous avons été invités à participer à la 8e édition du Salon international de l'artisanat du Cameroun, qui était un grand événement. Et le Congo n'a pas voulu être en reste. Et nous sommes là. Nous remercions vraiment le Cameroun pour cette invitation. Et nous avons eu l'honneur d'être reçus par Monsieur le Premier ministre. Je portais un message du Premier ministre du Congo et une invitation destinée au Cameroun pour participer à la Foire internationale de l'artisanat du Congo et au Conseil des ministres africains de l'artisanat, les ministres du CODEPA, qui aura lieu à Brazzaville au mois d'août. Vous savez, l'artisanat africain et l'artisanat de l'Afrique centrale est très riche. Monsieur le Premier ministre vient de nous le rappeler et il y a tellement de choses à voir. Mais nous avons en commun avec le Cameroun le travail du bois, le travail du raffiage. Nous avons en commun tout ce que les mains peuvent permettre de faire. Nous-mêmes, on est venus voir tout ce que le Cameroun a à offrir et on invite tout le monde à venir aussi à Brazzaville, à venir découvrir sur place ce que le Congo a à offrir.
Place au dossier du soir. Ce 25 juillet marque le 19e anniversaire de la disparition de Cindy Minja. L'humoriste et comédien est décédé en 2005 à Paris des suites de maladie. Major Assé et Valérie Ndongo essayent à leur niveau de perpétuer les œuvres de l'artiste défunt. Christelle Boudjika.
Ces deux professionnels du rire saluent le talent d'un as de la comédie. Valérie Ndongo surligne quelques traits de caractère de celui qui aura brillamment marqué les décennies 80 et 90.
Le plus grand one-man shower, stand-upper d'Afrique noire francophone. Il a été un pionnier dans ce secteur humoristique-là. Il savait, dans son style, le ramener terre à terre pour être compris de tous.
Je suis radicalement opposant quand j'entends remaniement ministériel.
Ces poulains animent la scène de l'art dramatique au-delà du triangle national. Major Assé reconnaît son rôle dans la construction de sa carrière.
Il a énormément influencé mon personnage. Ngbarondo, c'est un personnage que j'ai interprété effectivement dans la pièce La guerre du fer, qui devait être présentée à Montargis en France. Il disait, Major, crée-toi quelque chose et crée-toi un personnage parce que tu es capable de le faire.
Il a aussi suscité des vocations, hormis la comédie. Le rieur était enseignant d'histoire et géographie. Cet atout transpirait dans ses écrits.
Pour Cindy Minja, qui venait du théâtre, l'écriture était la base de l'art. Le texte était la base du jeu.
Né le 24 mai 1955, et Cindy Minja est mort le 25 juillet 2005 à Paris à l'âge de 50 ans.
Peste porcine à l'ouest. Les criquets attaquent toutes les récoltes en force.
Pour de nombreux Camerounais, la différence entre les prestations des comédiens d'hier et ceux d'aujourd'hui est claire et nette. Originalité, naturel et sens du travail acharné caractérisaient la production des années antérieures. Actuellement, la facilité et le manque de vocation semblent être les points dominants chez les jeunes humoristes. Vincent de Paul Mebara.
Moi que vous voyez là, je m'appelle Foulous Nestor. Tout le monde me dit que je suis bête.
Inoubliable, voilà comment les scènes des comédiens et humoristes d'hier sont qualifiés par certains Camerounais à Yaoundé.
Il n'y a pas de comparaison avec Cindy Minja et ce que les autres font aujourd'hui.
Leur auteur affirme cette catégorie est marquée par l'originalité, entre autres.
La comédie de Jean-Michel Cancan reste originale.
Aujourd'hui, comédiens et humoristes regrettent ces Camerounais pris plus par le manque de vocation et d'autres légèretés.
Certains le font aussi pas par vocation.
Avis rejeté en bloc par une autre catégorie qui voit plutôt en cette différence une conséquence logique de l'évolution du temps.
L'humour, c'est comme la musique. Chacun a son genre, sa manière qui nous font rire.
Mais une chose semble partagée par tous, c'est le sens du travail acharné et la patience que doivent s'approprier les comédiens et humoristes pour la production des œuvres un peu plus captivantes encore. Yaoundé dans le centre, Vincent de Paul Mebara, CRTV.
Sur la scène artistique camerounaise évoluent de nombreux acteurs de la comédie et de l'humour qui se démarquent les uns des autres par les contenus de leur production et les messages véhiculés. À l'écoute, se dégage une certaine liberté de ton dans la création. Preuve que l'humour et la comédie sont des œuvres de l'esprit qui exigent flexibilité et adaptation. Augustine Bassam.
Le paysage est vaste. Entre ceux qui ont quitté ce monde et ceux qui y sont encore, c'est désormais une question d'empreinte avec une encre délébile ou indélébile. Jean-Michel Cancan, Massa Batré, Mama Hélène et Cindy Minja, Demi Billon, Oncle Tchama, Kaiser Show, Selavie Nioué, Fingontralala, Tagne Condom, Tofinga, Moustique le Charismatique, Major Assé, Valérie Ndongo et Doudou Anon Glacé, Zakougla, la liste est loin d'être exhaustive. Ce sont là des générations d'artistes, comédiens et humoristes qui ont ont égayé le Cameroun et même au-delà, et continuent d'ailleurs de faire parler d'eux, bien que de regrettées mémoires aujourd'hui pour certains. Autant de générations, autant de styles, autant d'approches et autant de talents. Il faut dire que si à la base, l'humour et la comédie sont des formes d'esprit qui consistent à dégager les aspects plaisants et insolites de la réalité avec un certain détachement ou encore des moyens efficaces pour critiquer et éduquer la société en incitant au changement positif et à l'amélioration, certains artistes aujourd'hui s'en servent à des fins beaucoup plus pécuniaires. Malheureusement, ils ont été transformés en un gagne-pain sans flexibilité d'esprit ni créativité. Beaucoup y arrivent par dépit et se retrouvent coincés lorsqu'ils ne sont pas habités par le génie de la création ou le talent naturel. L'esprit cesse d'être libre. Conséquence, de nos jours, très peu de comédiens font rire. L'on enregistre de nombreuses pannes d'inspiration. Mais l'on pourrait sans doute éviter de fausses notes si les acteurs consentaient à s'approprier les règles élémentaires en termes d'écriture artistique et de maîtrise des langues utilisées.
Place à l'invité du soir, il s'agit d'Athanase Mvondo, plus connu sous le pseudonyme des deux doigts non glacés. L'humoriste s'épanouit dans son métier, lui qui a quelque peu suivi les traces du regretté Essindi Minja. Entretien mené par Christelle Boudjeka.
Athanase Mvondo, bienvenue dans nos studios.
Merci.
La scène artistique vous connaît sous le pseudonyme Edoudoua non glacé.
C'est moi.
Ce 25 juillet marque le 19e anniversaire de la disparition de Essindi Minja, humoriste et comédien camerounais. Quels souvenirs gardez-vous de lui?
Un grand homme de culture, de l'art, un grand humoriste. D'abord son français, même comme il se battait pour que ce soit accessible à tout le monde, c'était toujours un peu compliqué.
Un français soutenu.
Très soutenu.
Venons-en à Edoudoua non glacé. Ouais. Comment Edoudoua arrive sur la scène dramatique?
Je suis né après 11 mois et demi, passé dans le ventre de ma mère. Donc tout cela déjà, ça annonçait quelque chose d'assez particulier.
Selon vous, est-ce que aujourd'hui vos collègues humoristes, comédiens font le travail dans les normes?
Chacun a son angle. Si les gens s'en sortent, s'ils ont des followers, s'ils font des spectacles et ils font le plein, s'ils peuvent vivre de leur art, pour moi, je crois que ça va.
Et vous-même, dans votre carrière, comment est-ce que vous arrivez à bâtir vos contenus?
Nous réfléchissons beaucoup et surtout nous lisons la société. Parce que nous ne parlons pas des choses qui se passent dans le ciel. Nous regardons autour de nous dans notre environnement et puis on fait passer cela, n'est-ce pas, en dérision.
Et qu'est-ce qui influence le choix des thèmes? C'est vous-même, ce sont vos enfants, c'est votre épouse, c'est votre mère, c'est votre voisin?
C'est moi qui conçois et lorsque je venais au niveau de l'Internet, de Facebook et autres, ma petite famille, c'est-à-dire ma femme, mes enfants, disaient d'abord, papa, avant d'aller tourner, fais d'abord ça devant nous, là, comme ça, on va apprécier. Et si déjà tu fais rire les gens de la maison, on pense que ça peut aussi faire rire les voisins.
Dites-nous, est-ce qu'il y a des liens de communication entre vous, entre collègues? Est-ce que vous avez des plateformes où vous échangez?
Il y a des plateformes, mais lorsqu'on veut parler vraiment de l'art, il y en a, surtout ceux qui sont passés par Ngoïkélé, qui se disent que les autres sont moins comédiens, humoristes que eux, et ça devient souvent difficile, mais vraiment discuter de la discipline. Certainement, il y en a ailleurs, mais chez nous, vraiment, c'est différent.
D'hier à aujourd'hui, Edoudoua non glacé totalise combien d'années de scène?
32 ans. Puisque j'avais commencé en 1992 au lycée d'Obala.
Étant donné que votre métier vous satisfait totalement, est-ce que vous le recommanderiez à l'un de vos descendants? Si oui, avec quels conseils pratiques?
Si mon enfant se met dans cela, je ne vais pas dire non. Je vais essayer de mettre une ceinture autour de lui. Nous autres comme ça, on n'avait personne pour nous encadrer. On est arrivé comme ça et tout, on buvait partout, on mangeait n'importe quoi. Et puis les gens nous appelaient et on partait jouer à des montants. Vous voyez, mais si aujourd'hui notre enfant se met dans ça, moi je serai le manager, je serai derrière pour essayer, n'est-ce pas, de l'encadrer.
Athanase Mvondo, de votre nom de scène Edoudoua non glacé, merci d'avoir répondu à l'invitation de la CRTV.
C'est moi qui vous remercie de l'opportunité que vous venez de me donner de passer au poste national, au journal de 20h. C'est pas donné à tout le monde, hein?
Voilà, Edou Douanonglacé nous l'a dit, vous êtes sur le poste national de la CRTV. Le reste de l'actualité en bref, les nouveaux responsables récemment nommés à la Caisse des dépôts et consignations en qualité de porteurs de contraintes ont prêté serment ce jeudi au tribunal de grande instance du Mfundi à Yaoundé. C'était en présence du directeur général de la SEDEC, Richard Evina Obam. Au promu, il est demandé de faire montre de professionnalisme et de respect des exigences déontologiques en matière de recouvrement des fonds. En politique, l'évaluation des activités RDPC à la base au centre d'une réunion ce jeudi à la section Nyon-Infumu Nord à Ayos. Il était question d'exhorter les participants à organiser des conférences de sous-section et à participer massivement à l'opération spéciale d'établissement des cartes nationales d'identité qui va débuter lundi prochain, 29 juillet 2024. La concertation était présidée par Paul Ndongo-Biko, président de la section RDPC Nyon-Infumu Nord, par ailleurs maire d'Ayos. Agnès Sylviane Antama rentre d'Ayos.
Le 31 août prochain seront clôturées les opérations d'inscription sur les listes électorales pour le compte de l'année 2024. À quelques jours de cette échéance, la base RDPC doit redoubler d'efforts pour atteindre les objectifs fixés. Rappel fait aux responsables de sous-section ce jour à Ayos par le maire et président de la section RDPC Nyon-Infumu Nord.
Nous sommes à J-35 du 31 août. Tous les militants doivent être inscrits sur les listes électorale.
Et pour booster le processus, une opération de proximité d'établissement des cartes nationales d'identité aura lieu du 29 juillet au 2 août prochain.
Nous avons bénéficié de l'accord du délégué général à la sûreté nationale et l'accompagnement de notre élite majeure Joseph Betty Assomo pour l'établissement des cartes d'identité de proximité par village. Il fallait élaborer un planning de travail aux identificateurs.
Autre sujet évoqué durant cette concertation politique, l'impératif de l'organisation des conférences de sous-section pour une remobilisation militante pour doter chaque militant d'une carte d'électeur nécessaire pour un plébiscite victorieux en faveur de leur candidat naturel à la prochaine élection présidentielle.
Le collège sacré des Babombok Bassampo Bati réunit ce jeudi à Izeka dans le département d'Union Ekele, région du centre. Ils ont donc dit merci au chef de l'État pour les nombreux projets réalisés dans cette unité administrative. Le ministre des Finances rappelle au public qu'en application de la législation fiscale en vigueur, les timbres fiscaux sont exclusivement vendus par les débitants publics à travers les postes comptables ci-après. Les recettes des impôts, les régies des recettes du timbre, les trésoreries générales, les payeries spécialisées, les recettes des finances et les perceptions. Il invite par conséquent les usagers à être vigilants et à porter eux-mêmes les actes et documents à timbrer auprès des services sous-indiqués et d'éviter de les confier à des intermédiaires. Et rappelle enfin que la Direction générale des impôts a pris des dispositions utiles en vue de faciliter l'accès aux services du timbrage dans tous les points de vente et reste par ailleurs disponible pour toute réquisition aux fins d'authentification d'éventuels timbres sujets à caution. Tout en comptant sur le civisme fiscal de tous, le ministre des Finances, Paul Motazé, précise que conformément à la réglementation en vigueur, les documents revêtus de faux timbres fiscaux seront systématiquement rejetés sans préjudice de poursuites pénales à l'encontre de leurs détenteurs. Retenir de ce journal, les Jeux Olympiques 2024, demain le grand jour. Cérémonie officielle d'ouverture ce vendredi à Paris en France. Le président de la République, Paul Biya, et son épouse Chantal Biya seront au premier rang. 20h35, fin de ce journal, technique Célestin Gouès, réalisation Marie-Claire Messier-Kopna, rédacteur en chef Simon Lyonga. Je suis Marie-Chantal Noah. Merci, agréable soirée à tous avec la CRTV.